On se sent à tirer un sous coupe brutale. On conduit à la suite de la coupe provinciale. Les responsables en contestation ont observé l'échec des pouvoirs arabes, comme le retour en France des pouvoirs militaires, comme en Égypte, puis au Yémen. La guerre allumée en Libye, Somalie et leur retour en Syrie, ça a été leur repoussoir.
Ils ont pensé à créer
un projet, ils ont pensé à créer un projet politique manifestant descend dans la rue, que le premier manifestant descend dans la rue. Pour être transition à pied voulu longue, pour éviter le piège de l'instabilité avec l'ennemi, ils étaient prêts à transiger avec l'ennemi et avancer ensuite d'un coup, ils ont avancé pleinement aussi. Ils ont assumé pleinement leurs valeurs et les notions humanistes sont dévaluées dans où les notions humanistes sont dévaluées en tant de responsables. Les manifestants qui donnaient la nette ont fait un rêve saluant le meilleur, le plus clairvoyance, et leur générosité, voyance et leur générosité.
Merci beaucoup, Philippe. Vous êtes toujours dans le droit de vent sur Radio G. Vous êtes toujours dans le droit de vent sur Radio G. Nous avons aujourd'hui FM. Nous avons aujourd'hui heureux d'immense plaisir de recevoir Céline.
Bonjour Céline.
Bonsoir Valérie.
Bonsoir Céline.
Merci d'être avec nous ce soir.
Merci à vous surtout pour cette invitation.
Alors Céline, est-ce que tu as un plaisir? Alors Céline, est-ce que tu peux déjà nous présenter ce que tu as fait effectivement? Qu'est-ce que tu fais effectivement au chemin de traverse?
Je suis ce qu'on appelle un veilleur du chemin de traverse. Alors tous les jeudis soirs, alors de 19h à 22h, devant le centre de mise, devant le centre de mise à l'abri du chemin de traverse, du 115 au chemin de traverse, on sera un accueil des populations sans abri, un accompagnement de celle-ci aussi, et veille sur tout, une veille et une attention particulière à ceux qui ne trouveront pas dans l'abri au 115 le soir.
Et pour ces personnes, qu'est-ce qui est pour ces personnes?
Alors, pour ces personnes qui sont ouvre leurs portes et bien pour héberger une et une femme, ou bien des hommes, des femmes, ou des familles.
Combien de veilleurs et comment s'organise
sur les veilles, alors on est sur les veilles, on est présent depuis bientôt 5 ans, tous les soirs, on a des équipes de veilleurs tous les soirs,
dimanche, ça dépend des équipes, il y a 6 ou 7 personnes,
et puis les grandes équipes peuvent veiller jusqu'à 15 personnes le soir. on a aussi des interprètes qui sont présents, les croissants, le pain, les sandwichs. Oui, ça commence à être bien rodé maintenant.
Et la situation actuelle nous présente ces silences du cul, c'est qu'il y aura des gens qui tombent nuls, parce qu'il y a des gens qui, malheureusement, ne font pas de place le soir.
Oui, tous les soirs, il y a des gens qui on peut rentrer et se dire que tout le monde est à l'abri.
Et vous êtes combien de meilleurs, ça dépend des équipes.
Peux-tu nous dire pourquoi, Céline, tu as choisi ce type d'engagement?
Et si les gens veulent vous rejoindre, ils sont les bienvenus avec beaucoup de plaisir. Ils peuvent nous contacter via la plateforme internet, se renseigner d'ouvrir Donc, SOS Migrants Caraïbes, une proposition. Et là, il y a des propositions pour une fiche. Ils vont pouvoir remplir une fiche. Ils veulent être veilleurs, comme Joker, un Joker, un répit, des vêtements, ils ont des vêtements, des poussettes, ils sont avec nous. Voilà, parce qu'ils ont envie de s'engager avec nous. Ils sont partis par cette plateforme.
Mais puis, ils vont voir ce qui parfois dure. Et tout le monde est magnifique, devant la prévention. Et le fait de vivre, il est plus contraint nombreux, peut-être. On aura avec ces gens-là plus de
peut-être possible, même si ces gens-là sont peut-être aussi, même si effectivement, par exemple, les chiffres d'hébergement sont hébergés et remontent à la préfecture, il y a le copilotage, oui, plus on est nombreux, oui, plus on est nombreux à avoir ce regard, peut-être là, c'est bien plus, peut-être la situation est plus
grande. Merci à vous, bonne soirée.
Allez, bonne soirée.
Bonsoir.
Solo voy con mi pena, sola va mi condena. Correré mi destino para burlar la ley. Perdido en el corazón de la grande Babilón. Me dicen el clandestino por no llevar papel. Pa una ciudad del norte yo me fui a trabajar. Mi vida la dejé entre Ceuta y Gibraltar. Soy una raya en el mar, fantasma en la ciudad. Mi vida va prohibida, dice la autoridad. Solo voy con mi pena, sola va mi condena. Correré mi destino por no llevar papel. Perdido en el corazón de la grande Babilón. Me dicen el clandestino, yo soy el quebraley. Mano negra clandestina, peruano clandestino, africano clandestino, marihuana ilegal. Solo voy con mi pena, sola va mi condena. Correré mi destino para burlar la ley. Perdido en el corazón de la grande Babilón. Me dicen el clandestino por no llevar papel. Argelino clandestino, nigeriano clandestino, boliviano clandestino, mano negra ilegal.
Je flash des kilomètres de ma société, des kilomètres de son sang. Je flash mon monde, j'imagine un caravane de la Chine, c'est monsieur Mauritania.
De retour sur Radio G dans Droit Devant, vous avez certainement reconnu le titre magnifique de Manu Chao qui s'appelle Clandestino. Alors Céline, elle vient de repartir bien sûr à sa veille, elle est repartie au chemin de traverse, mais elle nous a laissé un petit peu d'elle dans sa chronique de septembre. Écoutons-la.
Bonsoir Valérie, bonsoir David. C'est la rentrée, après un été dont les épisodes caniculaires ont été éprouvants pour les personnes sans abri. C'est donc la reprise des chroniques du chemin de traverse, et c'est surtout la rentrée des enfants de la rue. Ils sont une dizaine ces derniers soirs à être présents devant le centre de mise à l'abri, sacs à dos et livres scolaires accrochés à leurs épaules jusqu'à la réponse d'une place au chaud qui arrive pour certains vers 21h25. Pas facile de vivre une scolarité sereine quand les devoirs se font dans les abribus pour être assis et que les nuits ne sont pas reposantes. Les deux filles de la famille tchétchène se sont vues proposer 4 places pour 5 jeudi dernier. Et il a fallu attendre 22 heures pour qu'elles puissent trouver une place au chaud chez un joker. Adonai, le petit érythréen, n'aura pas de place dimanche ni samedi. Vendredi, comme jeudi. Il lui faut attendre la réponse après 21 heures. C'est une sacrée semaine de rentrée. Et puis en ce moment, il y a Aïssatou et son bébé de 10 jours, Mohamed, né par césarienne, qui n'obtient pas toujours de place. Sa poussette est en mauvais état, il faudra trouver des vêtements taille naissance. Quand il n'y a pas de place, elle peut être reprise en charge par l'hôpital. Sinon, c'est l'attente interminable. Dimanche, elle obtient la place d'urgence à 21h40. C'est bien la rentrée pour les veilleurs du chemin de traverse.
Allez, il est temps de passer à l'actualité. Et puis, on va commencer par des bonnes nouvelles parce que ça fait du bien, Chantal, avec la libération d'un symbole de la résistance ukrainienne à la Russie.
Oui, la Russie et l'Ukraine ont échangé 35 prisonniers, dont le cinéaste Oleg Sentsov et 24 marins ukrainiens. Un pas décisif vers la fin de la guerre dans l'est de l'Ukraine, qui a coûté la vie à plus de 13 000 personnes depuis 2014. Oleg Sentsov était accusé de terrorisme et de trafic d'armes par la justice russe, qui l'avait condamné à 20 ans de camp en Russie. En mai de la même année, Oleg Sentsov avait entamé une grève de la faim qu'il a interrompue au bout de 145 jours. Il est enfin libéré après 5 ans d'emprisonnement. En 2018, le Parlement européen lui a décerné le prix Sakharov pour la liberté de l'esprit.
Philippe, Cédric Héroux, le fameux Cédric Héroux, se lance dans une nouvelle aventure.
Et oui, ce symbole de l'aide aux migrants a fondé chez lui, à la frontière italo-française, la première communauté 100% paysanne, Emmaüs Roya. Objectif, redonner un sens au quotidien des demandeurs d'asile. Il se souvient qu'il fallait trouver une activité car il y avait un état dépressif généralisé à la maison. Tout le monde se levait à midi, passait ses journées sur Facebook. Les jeunes n'avaient aucune activité ni responsabilité. La transition entre l'accueil d'urgence et la création de la communauté a été, on l'imagine, compliquée. Il a fallu remettre des horaires et des contraintes. Mais ici, pas d'objectif de rendement. L'exploitation devrait être rentable dans 2 ans.
Formidable idée. Hein.
Ah oui, oui.
Allez, on reste en France, mais cette fois, c'est pour quelque chose de terrible. Il y a des enfants qui continuent d'être maltraités par les pouvoirs publics.
Oui, Valérie, depuis plus d'un an, nous nous mobilisons aux côtés de la CIMAD, de l'UNICEF et de nombreuses autres organisations pour dénoncer l'enfermement des enfants en centre de rétention administrative. 208 enfants ont été enfermés en France métropolitaine l'année dernière en raison de leur statut migratoire ou de celui de leurs parents. L'enfermement constitue pourtant un traumatisme majeur pour ces enfants, quelle que soit sa durée. Il a des conséquences graves sur leur santé physique comme psychique. Vous aussi, joignez-vous à nous pour dire stop à l'enfermement des enfants et exiger de mettre fin à cette pratique inhumaine et dégradante.
Toujours en France, le sommet du G7 à Biarritz a été marqué par une répression injustifiable de la liberté de réunion et de mouvement.
Il est scandaleux de voir que des centaines de personnes ont été bloquées pendant des heures, sans aucune raison, et avant même de commencer à manifester. Bien que de très rares incidents violents aient été observés durant les 3 jours du sommet, une centaine de personnes ont été arrêtées entre le 23 et le 25 août, dont environ 70 ont été placées en garde à vue. Parmi elles, 3 observatrices de la Ligue française des droits de l'homme qui ont finalement été relâchées le lendemain seulement. Des observateurs d'Amnesty International ont également été retenus et fouillés à 6 reprises en 2 heures dans cette zone.
Ouais, c'est incroyable. Allez, on part maintenant à Hong Kong, Hong Kong qui est toujours en lutte contre Pékin.
Oui, le retrait de la loi sur l'extradition, le 4 septembre par la chef de l'exécutif, Carrie Lam, ne calme pas fondamentalement les protestataires. 5 revendications, pas une de moins. Telle est la réponse que font à Carrie Lam de nombreux démocrates hongkongais. Les manifestants demandent également une amnistie pour le millier de personnes arrêtées, une enquête sur les agissements de la police accusée de brutalité, ou encore l'instauration du suffrage universel direct. Le déploiement massif de policiers samedi dernier à Hong Kong a empêché les manifestants pro-démocratie de perturber à nouveau le fonctionnement de l'aéroport. La grève des cours, entamée le 2 septembre, s'est poursuivie jusqu'au 6. Des centaines d'étudiants et de lycéens formant des chaînes humaines dans la ville pour continuer d'exiger la satisfaction de toutes leurs demandes.
Ouais, quel courage, hein. Depuis plusieurs semaines, Philippe, des incendies volontaires font rage en Amazonie.
Plus que jamais, il devient urgent de soutenir celles et ceux qui luttent contre cette destruction intolérable des poumons de notre planète. C'est en effet pour protéger la Pachamama, à la mère nature, que des femmes amazoniennes notamment risquent leur vie au quotidien. Elles luttent depuis des années contre les industries extractives qui se sont installées sur les territoires ancestraux, détruisant par là même leur territoire et les écosystèmes. L'Amérique latine est la région la plus dangereuse pour les militants et militantes écologistes. En 2017, 207 étaient assassinés dans le monde, la majorité provenant de cette région. L'Amazonie contient des centaines de communautés indigènes, des milliers d'espèces et la moitié des forêts tropicales du monde. L'enjeu environnemental y est si important que le combat de ces femmes doit être notre combat à tous.
Tout à fait. Au Myanmar, Chantal, l'impunité persiste pour l'armée.
Et oui, cela fait 2 ans qu'elle a lancé des opérations de nettoyage ethnique dans l'état d'Arakan qui ont forcé plus de 740 000 femmes, hommes et enfants Rohingyas à s'enfuir de leurs maisons et de leurs villages. Et les généraux qui ont supervisé ces attaques sont toujours en poste. La récente proposition du Bangladesh et du Myanmar visant à rapatrier plusieurs milliers de Rohingyas a soulevé un vent de panique dans les camps des réfugiés. Les faits, les souvenirs de meurtres, de viols et de villages incendiés sont forcément encore très vifs chez eux. Certes, l'Union européenne a imposé des sanctions ciblées contre 11 des 13 hauts responsables militaires cités dans notre rapport de juin 2018. Mais le Conseil de sécurité doit avant tout saisir d'urgence la Cour pénale internationale et imposer un embargo total sur les armes.
Et puis, nous voulions terminer les actualités par cette information terrible. En moyenne, en France, depuis 10 ans, 140 femmes meurent chaque année sous les coups de leur conjoint.
Le mot a fait bien tardivement son apparition dans le débat public. Un féminicide est le meurtre d'une femme parce qu'elle est une femme. Depuis 2016, l'ONU souligne dans ses rapports que c'est, je cite, « la forme la plus extrême de violence contre les femmes et la plus grande manifestation de l'inégalité homme-femme ». Depuis le 1er janvier, en France, tous les 2 jours, contre 3 auparavant, une femme est assassinée par son conjoint ou ex-compagnon. Cette année, 102 de ces féminicides ont déjà été recensés en France. Ces statistiques donnent le vertige et pourraient laisser croire que le phénomène s'est banalisé dans une sorte d'indifférence. Pourtant, des mesures ont été prises, avec les ordonnances de protection, les bracelets électroniques d'éloignement ou encore les téléphones grave danger. Mais, selon les associations, elles se révèlent encore nettement insuffisante face à une situation d'urgence. L'Espagne, en pointe dans ce combat, a réussi à faire baisser significativement le nombre de féminicides. Le Grenelle des violences conjugales, lancé le 3 septembre, se tiendra jusqu'au 25 novembre, journée internationale de lutte contre les violences faites aux femmes. Il faut, à cette occasion, dégager des moyens, enfin à la hauteur d'un combat qui concerne toute la société.
Et c'est le moment où je vous présente un portrait de défenseur des droits humains. Alors pour ce mois-ci, celui que j'ai choisi, c'est le portrait de la plus jeune et certainement l'une des plus médiatiques du moment. Il s'agit de Greta, bien sûr. Greta Thunberg, cette militante suédoise née en 2003, et oui, ça ne nous rajeunit pas, et qui lutte contre le réchauffement climatique. C'est à l'âge de 15 ans que Greta proteste devant le Parlement suédois contre son inaction face au changement climatique malgré l'urgente nécessité d'agir. À la suite de cette action, elle initie en novembre 2018 la grève de l'école pour le climat. Et le mouvement se propage chaque vendredi dans le monde entier. C'était à la suite de son discours à la COP24 en décembre de la même année. Alors, je vous laisse écouter le début de son discours.
My name is Greta Thunberg. I am 15 years old and I'm from Sweden. I speak on behalf of climate justice now. Many people say that Sweden is just a small country and it doesn't matter what we do. But I've learned that you are never too small to make a difference. And if a few children can get headlines all over the world just by not going to school, then imagine what we could all do together if we really wanted to.
Alors, je vais vous traduire un petit peu. Après s'être présentée, elle a dit « Beaucoup de gens disent que la Suède n'est qu'un tout petit pays et que ce que nous faisons n'a pas d'importance. Mais j'ai appris qu'on n'est jamais trop petit pour faire la différence. Et si quelques enfants peuvent faire les gros titres partout dans le monde, simplement parce qu'ils ne vont pas à l'école, alors imaginez ce que nous pourrions faire si nous le voulions. » Le 30 août dernier, cette jeune femme a participé à sa première manifestation new-yorkaise pour le climat aux côtés de plusieurs centaines de jeunes. Cette manifestation valait surtout ballon d'essai avant le défilé géant qui est prévu devant l'ONU très bientôt, le vendredi 20 septembre prochain. D'ailleurs, cette date a été retenue pour une grève mondiale pour le climat. Alors tous dans les rues. Voilà, il est 19h28 et nous sommes toujours dans Droit Devant sur Radio G 101.5. Alors c'est agenda militant et culturel. Oui.
Le vendredi 13 septembre à 20h à la MPT Montplaisir, spectacle gratuit. Cela s'appelle « Réfugiés en 9 lettres » par la Spark Compagnie pour tout public à partir de 8 ans. Dans le mot « réfugié », il y a le mot « fuir ». Dans le mot « réfugié », il y a le mot « refuge ». À travers le récit des destins croisés de plusieurs personnages, ce spectacle dessiné et chanté sous vos yeux invite à mieux comprendre les raisons qui obligent les personnes à fuir et à se mettre en quête d'un refuge.
Le Théâtre du Tiroir présente le spectacle « Les Suppliantes » samedi 14 septembre à 20h30 à l'espace culturel de Varade. Écrite par Eschyle il y a 2500 ans, cette pièce raconte une lutte de femmes pour leur liberté. 30 actrices et acteurs amateurs résidant en Mayenne et ou demandeurs d'asile s'expriment en 6 langues et ont choisi de défendre sur la scène cette légende car c'est leur propre histoire qui se raconte ici.
Oui, et très rapidement, le samedi 14 septembre, il y a aussi une fête de quartier à Montplaisir. Il y a à Rabelais-sur-Layon, le dimanche 15 septembre, l'AFPS, la coopérative palestinienne, qui propose un pique-nique. Et puis du 20 au 27 septembre, n'oubliez pas, c'est la semaine internationale pour le climat.
Avec voilà. Notamment une manifestation à Angers le samedi 21.
Tout à fait, il est très très bientôt. Attention, 19h30, on vous souhaite une excellente soirée.
À bientôt. Bonne semaine.
Au revoir.
Radio G 101.5.